Jésus était-il un simple prophète? Quand on dit cela, souvent on rajoute ce mot « simple », comme si être prophète n'était pas grand-chose ou rien du tout. Or, je veux dire d'abord que dire que Jésus est un prophète, ça n'est déjà pas si mal, et c'est déjà dire beaucoup. Parce qu'en effet, on trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, justement cette affirmation que Jésus, il est prophète. Et dire que Jésus est prophète, c'est dire beaucoup parce que, dans la tradition juive, un prophète, ça n'est pas rien. C'est quelqu'un qui dit la parole de Dieu. Et des prophètes, il n'y en a pas tant que ça. En général, quand les prophètes ont parlé, on a noté ce qu'ils ont dit, et ça a constitué l'Écriture sainte. En effet, quand les prophètes ont parlé, eh bien, leur écrit a donné l'Ancien Testament. Et autrement dit, un prophète, ce n'est pas simplement quelqu'un qui dit deux, trois idées comme ça sur Dieu, sur la vie, sur la mort, mais c'est quelqu'un qui dit la parole de Dieu. Or, dire que Jésus est prophète, c'est dire déjà qu'il dit la parole de Dieu. Et si Jésus est prophète, moi, je ne le suis pas. Et il y a donc, vous voyez, une différence fondamentale de nature entre celui qui est prophète et celui qui est un simple prédicateur. Ainsi, je ne voudrais pas, pour commencer, même si je vais plus loin après tout à l'heure, je ne voudrais pas dévaloriser la simple affirmation qui consisterait à dire que Jésus soit prophète. D'autant plus qu'il y avait dans le judaïsme cette idée que les prophètes avaient autrefois parlé du temps de Moïse, qui avait recueilli la parole de Dieu sur le mont Sinaï, du temps des psaumes, du temps des grands prophètes, d'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et que le souffle prophétique de Dieu avait cessé de souffler. Le judaïsme pensait, c'est pour ça qu'il avait fermé ce qu'on appelle le canon, et à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, le judaïsme en gros a pensé que le Saint-Esprit avait cessé de souffler et qu'il n'y avait plus de prophètes. Le prophétisme était un âge révolu. Alors donc, on ferme le canon, Dieu a cessé de parler, les prophètes, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, on l'a noté, et maintenant c'est terminé, il n'y a plus de prophètes, on est simplement dans l'âge de l'observance, c'est-à-dire des règles, des lois et des commandements. Et ainsi, quand Jésus se présente justement en prophète, c'est dire beaucoup, c'est dire, vous voyez, de nouveau le Saint-Esprit souffle, c'est dire de nouveau la parole de Dieu s'adresse à son peuple, de nouveau il parle, de nouveau il est là, il y a, si vous voulez, une nouvelle révélation possible. Dire que Jésus est prophète, c'est dire justement que l'on peut rouvrir la Bible pour remettre d'autres livres dedans. Eh bien zut, si les gens disent dire que Jésus est prophète, c'est rien, ce n'est pas rien. Justement, dire que Jésus est prophète, c'est dire qu'il y a la possibilité d'un nouveau testament. C'est parce que Jésus est prophète qu'il y a un nouveau testament. Et c'est justement cela que les Juifs ont refusé. Ils ont dit non, Jésus n'est pas un prophète. Il n'y a pas d'esprit qui souffle. Jésus n'est qu'un baratineur, c'est un embobineur, quelqu'un qui prétend qu'on peut se libérer de la loi. Mais ça, on pourrait, si l'esprit soufflait. Mais voilà, nous croyons que l'esprit a cessé de souffler depuis des siècles et qu'il ne souffle plus. Alors ça, c'est ce que l'on voit dans pas mal de passages, dans l'évangile de Jean, par exemple. C'est c'est le sens de ce miracle des noces de Cana, où effectivement il y avait l'ancien vin, qui était l'ancien vin de l'ancienne alliance, et Jésus est celui qui donne le vin nouveau de la nouvelle alliance, c'est-à-dire que tout à coup, de nouveau, la parole de Dieu coule à flot. Et c'est aussi cette confession de foi des pèlerins d'Emmaüs, en Luc 19, 24, qui, après la mort de Jésus, disent, voilà, Jésus qui était un prophète puissant en parole et en acte, ils croyaient que c'était lui, quelqu'un donc de très important, mais voici, non. Donc voyez-vous, cette affirmation, dire que Jésus est prophète, est souvent mal comprise par nos contemporains, parce que, pour nous aujourd'hui, un prophète, c'est quelqu'un c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui dit des choses intéressantes, mais pour le judaïsme, c'est beaucoup plus que cela. Et pourtant, lorsque on lit ce titre, Jésus était-il un prophète ou un simple prophète, on comprend en gros quand même quel est l'enjeu de la question. L'enjeu de la question, c'est bien celui-là, c'est que cette affirmation « Jésus, simple prophète », est en général opposée à l'affirmation « Jésus est Dieu ». C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a là une alternative entre ceux qui prêchent la divinité de Jésus-Christ et ceux qui disent que Jésus était un simple prophète. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pouvait dire une parole divine, mais qui n'était pas Dieu lui-même. Ceux qui s'opposent à la divinité du Christ, il y en a bien sûr de nombreux à l'extérieur du christianisme, et on pense en particulier à l'islam, qui dit que pour lui, Jésus était un prophète, c'est le dernier grand prophète avant Mahomet. Et puis, dans le christianisme, ça existe aussi, bien sûr, et en particulier, il y a les unitariens, l'église unitarienne, qui refuse la divinité du Christ. Mais néanmoins, je voudrais sortir de cette espèce de duel entre ceux qui disent « Jésus est Dieu » et ceux qui disent « Jésus n'est pas Dieu, c'est un simple homme comme vous et moi qui a prêché, peut-être un peu mieux que moi, bon, mais finalement pas tellement différemment. » Parce que je crois que déjà dire « Jésus égale Dieu », c'est une formule mathématique qui est très problématique et qui en elle-même est simpliste. Dire « Jésus est Dieu », tout simplement, est quelque chose que je crois un théologien un petit peu subtil ne peut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'il dise que Jésus est un homme comme un autre, mais peut-être qu'il y a quand même des nuances possibles entre Jésus, c'est un simple quidam qui a eu trois idées sur la religion, et dire que Jésus, c'est Dieu lui-même qui se promène en Palestine avec des sandales aux pieds, il y a peut-être quand même des subtilités possibles en théologie. Or, ce qui est dommage, c'est que pour beaucoup de chrétiens, eh bien, on est soit d'un côté, soit de l'autre, et je milite pour essayer de dire qu'on peut peut-être avoir des idées un peu plus complexes dans ce domaine. Cette idée que Jésus serait Dieu vient en général d'une fausse idée de ce que doit être la Trinité. On a enseigné aux enfants, depuis leur plus jeune âge, que pour être chrétien, il faut croire dans la Trinité. On a enseigné aux enfants que la spécificité de la foi chrétienne, c'est la foi dans le Dieu trinitaire. C'est d'ailleurs sur ce point que s'est rassemblé ce qu'on appelle le Conseil œcuménique des Églises, qui rassemble l'ensemble des églises chrétiennes, soi-disant. Et ils disent, c'est de croire dans le Dieu trinitaire. Aujourd'hui, cela est de plus en plus, je dirais, mis en problème ou en question, parce que l'on sait que la doctrine de la Trinité est un dogme qui date du IVe siècle après Jésus-Christ et qui n'a donc pas de fondement direct dans le Nouveau Testament. C'est ce qui pose déjà un petit peu des difficultés. Et ensuite, l'affirmation de dire que Jésus égale Dieu provient, disais-je, non pas tellement du dogme trinitaire qui en lui-même est un dogme très, très saint, enfin, très salutaire et très bon et auquel j'adhère pleinement, mais d'une mauvaise compréhension de la doctrine de la Trinité. C'est que la Trinité, je dirais simplifiée dans les catéchismes pour enfants, fait des catastrophes. Et je me suis déjà exprimé là-dessus, je ne vais pas vous refaire toute une explication de ce que signifie la Trinité, mais en tout cas, la Trinité ne veut pas dire que Jésus de Nazareth soit Dieu. La Trinité dit qu'il y a le Père, Fils et Saint-Esprit, et les trois sont égaux, mais dans la Trinité, ce que l'on désigne par Fils, ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est la partie divine qui justement s'est incarnée en Jésus de Nazareth. Donc dans la Trinité, Jésus-Christ, c'est l'incarnation du Fils, c'est l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. Dans la doctrine de la Trinité, Jésus-Christ, c'est le Fils plus autre chose, c'est-à-dire c'est le Fils, la parole éternelle de Dieu, qui s'est trouvée présente dans un homme qui, lui, n'est pas Dieu, c'est un homme qui a été créé, qui a été conçu et qui est né comme vous et moi, et qui avait sa propre volonté, sa propre pensée, sa propre âme, et qui était Jésus de Nazareth, fils en tout cas de Marie. Et ainsi, il ne faut pas trop mélanger, parce que Jésus de Nazareth n'est pas la parole en soi, Jésus de Nazareth, il est la parole incarnée. Quant au Jésus historique, Jésus de Nazareth, eh bien, il n'est évidemment pas Dieu. Parce que Jésus de Nazareth, c'est un homme qui s'est promené en Palestine. Dieu ne se promène pas en Palestine avec des sandales et une grande barbe. Ce n'est pas Dieu qui est crucifié sur la croix. Ce n'est pas Dieu qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas Dieu qui dit « Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que j'en boive, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. » Oui, il y a forcément, nécessairement, une distinction entre le Jésus historique, Jésus de Nazareth, et Dieu. Parce que Dieu, il est dans le ciel, et que Jésus de Nazareth, il est sur terre. Alors voyez-vous, je crois qu'il faut donc essayer de compliquer un petit peu les choses, même si vous, je vous demande de m'en excuser. C'est parce que, en bonne théologie classique, ce qui est Dieu, donc, ce n'est pas le Jésus de Nazareth, c'est la part divine qui est en lui. Autrement dit, nous avons tous en nous-mêmes une certaine part divine, mais ce qu'affirme la théologie traditionnelle, c'est de dire que cette part divine qui était en Jésus-Christ, eh bien, c'était la totalité de Dieu. Jésus avait en lui quelque chose de divin, comme nous tous, mais ce qui est divin en Jésus, c'est tellement plein, tellement complet, que c'est comme si Dieu lui-même, tout entier, habitait en lui. C'est ça qui a été voulu dire. Alors pour ça, il faut préciser un petit peu les choses, même si c'est assez délicat. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on rentre dans ce domaine, on entraîne souvent des réactions très fortes quand on ose toucher justement à l'idée de la divinité pure et simple de Jésus. Et que beaucoup de gens confondent tout dans ce domaine. C'est comme il n'y a pas très longtemps où je disais un peu brutalement que je ne croyais pas que le Jésus historique fût Dieu. Tout le monde m'a dit à la sortie, « Comment, monsieur le pasteur, vous ne croyez donc pas que Jésus soit le Fils de Dieu ?» Ah, j'ai dit « Si !» Ça, je crois que Jésus est fils de Dieu. Mais justement, fils de Dieu ne veut pas dire Dieu, parce que le fils, ce n'est pas le Père. Donc vous voyez que tout cela est très compliqué. Alors je ne veux pas rentrer dans ce débat trinitaire, on pourrait le faire à un autre moment, je veux simplement vous laisser sur cette idée que c'est compliqué. Au moins, retenez ça, c'est compliqué. C'est plus compliqué qu'on ne pense et ne nous contentons pas de réponses trop simples dans ce domaine. Et je vais en revenir à mon point de départ. Jésus était-il un simple prophète? Je vous ai dit qu'il soit prophète, c'est déjà pas mal. Et en fait, ma conviction à moi, c'est que Jésus était quand même, de toute façon, plus qu'un prophète. Et il était plus qu'un prophète sur un certain nombre de points. Le premier, c'est qu'un prophète, il dit la parole de Dieu. Donc, très bien, Jésus a dit la parole de Dieu. Mais il ne la vit pas forcément. Le prophète, c'est quelqu'un qui entend un message ou comprend un message, il le délivre, ensuite il rentre chez lui, il met ses pantoufles, il regarde sa télévision. Il a dit ce qu'il avait à dire. Alors que Jésus-Christ, il a dit la parole, mais qu'il a fait plus que cela. Il l'a vécu concrètement. Il l'a mise en application. Et déjà, cela fait qu'il est plus qu'un prophète. Parce que Jésus, il est important non seulement dans ce qu'il a dit, mais aussi dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit et aussi dans ce qu'il a vécu. Chacun des actes, la façon de vivre de Jésus, sa mort, est aussi un message en soi. Et cela a une signification. C'est en ce sens que la théologie chrétienne dit que Jésus, il est l'incarnation de la parole. Il n'est pas que le porte-parole, ce n'est pas qu'un poste de radio qui émet une onde qu'il reçoit et qu'il redispatche, mais il est l'incarnation même de la parole. Cette parole de Dieu, il l'a intégrée en lui-même, il l'a totalement intégrée. Ça a été une partie de lui-même et il en a vécu concrètement. Cette parole de Dieu a été le centre vital de son existence, ça a été sa foi, sa vie, son œuvre, sa mort et sa résurrection. Ce qui fait que quand on regarde le Christ, eh bien, effectivement, on voit la parole elle-même, pourrais-je dire. La deuxième conviction que j'ai, qui fait que je pense que Jésus est plus qu'un prophète, c'est que Jésus, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est également fils de Dieu. Et ça, fils de Dieu, c'est quand même beaucoup plus qu'un prophète. Il y a eu beaucoup de prophètes, et je crois que Jésus, il est le seul à être vraiment, en lui-même, le fils de Dieu. C'est d'ailleurs la confession de foi fondamentale que l'on trouve dans l'Évangile. On ne trouve pas la confession de foi que Jésus soit Dieu, sauf dans la bouche de Thomas, la fin de Jean, pour d'autres raisons. Par contre, que Jésus soit le Fils de Dieu, ça, c'est la confession de foi que l'on trouve sans arrêt dans le Nouveau Testament. Bien sûr, cette affirmation n'a rien à voir avec sa naissance physique, je dirais avec sa conception spermatozoïdale ou non. Je crois que quand on dit que Jésus est Fils de Dieu, ce que l'on veut dire, c'est qu'il ressemble à Dieu, qu'il tire tout son être de sa relation à Dieu, veut dire qu'il est le serviteur de Dieu, qu'il est l'incarnation même, justement, de ce Dieu, et qu'il est en totale proximité avec Dieu et en totale transparence avec lui. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Là, on dit quelque chose, je crois, de très fort quant à sa relation avec Dieu lui-même. L'autre affirmation fondamentale concernant Jésus, c'est de dire qu'il est le Christ. Dire que Jésus est le Christ, cela veut dire qu'il est le Messie. Vous savez que Christ et Messie, c'est le même mot, l'un en grec, l'autre en hébreu. Or, Christ comme Messie veut dire celui qui a reçu l'onction d'huile. Alors là, nous renvoyons bien sûr à l'Ancien Testament. Quels étaient les personnages qui recevaient l'onction d'huile ? Réponse, c'était trois catégories de personnages. Les prophètes, j'en ai parlé, les prêtres et les rois. Et donc dire que Jésus est le Christ veut dire qu'il est prophète, roi et prêtre. C'est ce que l'on appelle en termes techniques le triple ministère du Christ. Et je crois qu'être chrétien, c'est effectivement bien dire que si Jésus est prophète, oui, d'accord, mais il est plus que prophète parce qu'il est aussi roi et prêtre. Alors ça, c'est important de le dire parce que dans le protestantisme, on a parfois un petit peu tendance à faire de Jésus-Christ justement un prophète, une sorte de sage, quelqu'un qui nous révèle des choses sur Dieu, sur la vie, sur nous. Or, je crois qu'il faut aller plus loin. Et s'il est bien de croire, je dirais, en Jésus-Christ comme on croit dans l'Évangile, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, « Ben oui, moi je trouve que l'Évangile c'est très bien, je crois dans ce que Jésus a dit et donc je suis chrétien », je pense qu'être vraiment authentiquement et pleinement chrétien, c'est reconnaître dans Jésus justement plus qu'un prophète. C'est le reconnaître comme roi. Et dire que Jésus est roi, c'est dire que c'est celui qui dirige, celui qui ordonne, celui qui est le maître, c'est de dire qu'il est le Seigneur, celui qui agit concrètement dans le monde et qui nous donne d'agir avec lui. Alors il est vrai qu'il y a plein de belles et bonnes choses qui peuvent être faites dans le monde sans le Christ. Mais je crois que nous devons faire attention de rappeler que le Christ doit être aussi notre roi et que croire en Jésus, c'est vouloir reconnaître Jésus comme son autorité suprême dans sa vie. Et puis dire que Jésus est prêtre, c'est dire qu'il est celui qui nous met en relation avec Dieu. C'est dire que c'est lui qui peut nous permettre d'accéder à Dieu lui-même. Normalement, dans l'Ancien Testament, l'homme ne peut pas voir Dieu. Et c'est le prêtre qui négocie avec Dieu, c'est le prêtre qui fait l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et ensuite, il transmet la parole et il met en contact avec Dieu. Là, dire que Jésus est le prêtre, c'est dire que c'est lui qui nous permet d'accéder à Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dit Jean, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, Jésus, lui nous le fait connaître. Il nous met en relation avec Dieu et aussi il nous réconcilie avec Dieu. Puisque l'un des rôles du prêtre dans l'Ancienne Alliance était de faire ses sacrifices qui permettaient d'obtenir le pardon et d'être en paix avec Dieu. Alors voyez-vous, il est donc non seulement prophète, mais aussi roi et aussi prêtre. Et puis encore autre chose, enfin, c'est que oui, certainement, Jésus est un Messie, donc il est un prophète, un roi et un prêtre. Mais l'Évangile nous dit plus que cela encore. Il nous dit qu'il est le Christ, avec un C majuscule. Il est le Messie. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Messie parmi d'autres, mais il est le Messie par excellence. Autrement dit, il est à la fois le prophète par excellence. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un simple prophète. Il est le prophète. Le prophète dit une certaine parole, mais il ne dit pas tout. Alors que Jésus, pour le chrétien, je crois, ne dit pas une parole partielle. Il dit la plénitude de la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi contre l'islam qui dit bon, Jésus, c'était un prophète, et puis après, il y a Mahomet qui vient dire autre chose. Non, pour l'évangile, il n'y a pas de nécessité d'après, parce que Jésus, il est le prophète, et il a tout dit. Il n'y a rien de plus à ajouter. Jésus, finalement, est celui qui a dit la plénitude de la parole de Dieu, et ce n'est pas une parole parmi d'autres, c'est la plénitude. Ensuite, il est le Christ, et donc il est le prêtre par excellence. Ce n'est pas simplement de dire « oui, Jésus, ça me permet de rencontrer Dieu ». Mais Jésus nous donne la plénitude de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, quand on a le Christ, normalement, on n'a plus besoin d'autres prêtres. On n'a plus besoin même d'une église. On n'a plus besoin de rien d'autre que lui. Il est le prêtre par excellence, le seul prêtre, le prêtre fondamental. Et c'est lui qui nous donne la relation à Dieu, lui et seulement lui. Et comme le prêtre est aussi celui, je vous l'ai dit, qui donne le pardon, si Jésus est le prêtre, il est celui qui nous donne une fois pour toutes le pardon de Dieu. Il est celui qui nous a pour toujours et qui nous réconcilie tous avec Dieu. Il est en lui-même la réconciliation avec Dieu. Vous voyez qu'on en dit quand même beaucoup plus qu'en disant Jésus est un simple prophète. Et enfin, dire qu'il est le Christ avec un grand C, c'est dire qu'il est le roi. Il n'y a pas à obéir à quiconque d'autre, il est l'autorité suprême, au-dessus de tout, au-dessus de toute exigence. Il est donc le prêtre, le roi, le prophète par excellence, et je crois qu'en disant cela, on en dit beaucoup. Et puis en disant qu'il est le Christ, ce sera ma dernière affirmation, c'est aussi de dire qu'il est celui qui accomplit l'espérance du judaïsme ancien qui disait « il va venir un Christ, un Messie ». Qui va nous donner toute chose. Et les Juifs attendaient cela. Ils attendaient un Messie, et ce Messie, ce Fils de l'homme, c'est celui qui devait nous donner la paix, la plénitude de la présence de Dieu. Il devait nous donner la lumière, l'eau vive qui irrigue et fait vivre notre vie. Il est celui qui devait ouvrir les yeux des aveugles, guérir les sourds, ressusciter les morts. Et Jésus, quand on dit qu'il est le Christ, eh bien on dit justement qu'il est le Messie. Il est celui qui donne tout cela. Il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les sourds et il donne la vie, ressuscitant les morts. Alors bien sûr, Jésus s'est présenté comme un Messie spirituel, vous savez, et non pas matériel ou politique. Et donc la paix que donne Jésus, ça n'est pas la paix politique, c'est vrai. La guérison que donne Jésus, ça n'est pas peut-être la guérison médicale, mais la guérison intérieure. La lumière que donne Jésus, ce n'est pas de guérir les dixièmes de nos yeux que peuvent guérir un médecin, mais c'est une lumière intérieure et une visée spirituelle. Et la résurrection qu'il nous donne, c'est une résurrection intérieure et spirituelle. Ce n'est pas de faire revivre les cadavres dans les cimetières. Bien sûr, et cette vie éternelle que Dieu nous donne et que Jésus nous donne, ce n'est pas comme le comte de Saint-Germain qui, au XIXe siècle, je crois, se prétendait immortel et avoir vécu 3 ou 4 siècles. Grande supercherie. Non, bien sûr, c'est autre chose. Donc Jésus, en disant qu'il est le Christ, le Messie, on reconnaît qu'il est celui qui nous donne tout cela. Alors comment le donne-t-il? Eh bien, il le donne justement par sa parole. Il nous le donne tout cela parce que cela nous est transmis par l'Évangile. Et il faut reconnaître que cet Évangile n'est pas une parole ordinaire. Ce ne sont pas de simples bons conseils moraux. C'est une parole qui a une force plus grande, je dirais, qu'une parole prophétique. Lisez l'Ancien Testament, dans les prophètes. Le prophète dit, vous savez, hein, vous avez intérêt à vous convertir, hein, sinon ça va barder. Bon, très bien. Mais Jésus, justement, n'est pas dans ce type de parole. Certes, il y a des exhortations dans la parole du Christ. Il y a des mises en garde, il y a des enseignements. Mais la parole du Christ, c'est plus qu'une parole, je dirais, avec un contenu simple. C'est une parole qui transforme, une parole qui nous sauve, une parole qui fait vivre, une parole qu'il faut prendre un petit peu tous les jours dans sa vie, comme on prendrait d'un bon médicament. C'est une parole dont on doit boire régulièrement un petit peu, comme on boirait d'une eau de jouvence, ou c'est comme, un filtre d'amour et de vie éternelle qu'il faudrait prendre tous les jours, comme une bonne prescription médicalement spirituelle. Et puis Jésus, en tant que Christ et Messie, il est aussi un sauveur, oui. Il est le sauveur à accepter, à recevoir, à prendre de sa vie comme dans une source de vie. Et ainsi, devant nous, je crois, passer de l'appellation rabbi, que l'on voit dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire maître, enseignant, à Christ. Et la confession de foi fondamentale du christianisme, ce n'est pas de dire Jésus égale Dieu, ce qui peut se défendre, mais qui n'est pas, à mon avis, obligatoire, c'est de dire Jésus est le Christ. Et dans cette affirmation, il y a énormément de choses. C'est déjà pas mal de voir l'enseignement du Christ, mais il faut aller plus loin. Oui, vraiment, il est celui qui guérit, qui ouvre les yeux. Il est celui qui fait plus que d'expliquer comment, quand il voit un aveugle, il fait plus que d'expliquer comment il devra se débrouiller pour vivre avec sa cécité. Il ne met pas simplement les choses en perspective, il redonne vraiment la vie. Cette parole est une parole efficace. Oui, ce n'est pas juste un discours avec des considérations sur la vie, c'est une parole qui transforme, qui guérit celui qui l'écoute. Ce ne sont pas que des promesses ou des mises en garde comme les prophètes, mais c'est une parole créatrice. Et c'est ainsi, je crois, que Jésus est certainement prophète, mais il est infiniment plus que cela, parce qu'il est le Christ, il est le Messie, il est notre roi, il est notre grand prêtre, il est notre sauveur, il est le Messie, celui qui nous donne tout en plénitude, celui qui accomplit pour nous tous toutes les promesses et tout ce que Dieu peut nous donner. Amen.